mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur Aligre FM 93.1. C'est Philosophie au présent et la meilleure des radios, vous savez, une des dernières radios libres en France. Voilà une radio que je vous conseille d'écouter en podcast, en direct, c'est notre cas aujourd'hui. Voilà, Philosophie au présent avait fait une petite disparition momentanée, mais elle était toujours là en podcast, hein, voilà, et elle continue. Et aujourd'hui, bon, vous savez qu'on est là à l'antenne depuis 2018, voilà, pour parler, alors pour faire une émission avec le Collège International de Philosophie, je rappelle ce partenariat avec cette institution elle-même libre, voilà, qui permet à des chercheurs d'exprimer, voilà, leur dernière recherche en cours, hein, de partager les idées, hein, sur le présent de la philosophie. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de présenter aux auditrices et aux auditeurs eh bien, une nouvelle collègue, Marion Polaert. Bonjour Marion.
Bonjour Nathalie.
Voilà, nous l'espérons, une des nouvelles voix récurrentes de philosophie au présent et qui a aujourd'hui eu l'idée de nous présenter avec Nicolas Lemaire. Bonjour Nicolas, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ?
Bonjour Nathalie, vous avez tout à fait bien prononcé, voilà, ce nom breton.
Voilà, ce nom breton. Bon, et alors je vous présente et puis je vous laisse tout de suite la parole. Alors Marion, vous êtes directrice de programme au Collège International de Philosophie, je le disais, donc une collègue, même si moi je n'en suis plus. Voilà, depuis fin 2025 en plus, vous faites partie de plusieurs équipes de philosophie entre Lille, Paris et Lisbonne, et vos recherches portent sur la philosophie ancienne et les réceptions contemporaines. J'ai cru lire aussi que vous aviez une dimension politique dans votre recherche très importante, c'est ce qui vous amène aujourd'hui. Nicolas Lemaire, vous êtes maître de conférence MCF, comme on dit, à l'université de Brest, voilà, enseignant-chercheur. Donc, vous avez fait une thèse sur Platon, mais rien d'autre alors, votre thèse, c'était quoi sur Platon ?
Alors, ma thèse sur Platon, c'est une thèse sur un dialogue de Platon en particulier, La République,
oui,
et je reprends le dossier d'une des questions que pose ce texte, qui est la critique assez radicale de la poésie que Platon propose.
Oui, bravo, super. Allez, je me tais, mesdames, messieurs, et je vous laisse en compagnie, voilà, d'un très très beau... très bel ouvrage qui va vous être présenté aujourd'hui, Urgence. Donc, vous avez entendu Marion Polaert et Nicolas Lemaire se présenter. Voilà, c'est la collection Les Essentiels d'Hermès, CNRS Éditions. Ça vient de paraître, c'est tout jeune, c'est tout frais. C'est quelle année, monsieur
Dan ? Ça date d'octobre dernier.
Oh là là, octobre dernier, c'est parti. Voilà, avec grand plaisir.
Donc, en effet, aujourd'hui, on va essayer d'explorer la notion d'urgence et de le faire à partir de plusieurs regards. Quand il y a urgence, il n'est plus temps de réfléchir. Et il faudrait agir sans délai. Réfléchir sur l'urgence, cela pourrait donc impliquer que l'on sorte, que l'on ait à sortir de la temporalité contrainte qu'elle impose. Quand il y a urgence, la réflexion et le débat se trouvent court-circuités, voire même, ce sera une de nos questions, délégitimées. Car le débat nous fait perdre en efficacité et il pourrait être déplacé en un sens de perdre encore du temps à discuter, à débattre, alors qu'il presse. Durant cette émission, Nicolas et moi l'ont tenté de clarifier comment se soustraire à la pression de l'urgence, à son temps raccourci, sans pour autant nier l'évidence, car il y a bien des urgences qui ne laissent pas vraiment le choix. Donc avec Nicolas, nous avons dirigé un livre collectif,
oui,
Nathalie l'a rappelé,
fait, oui.
Qui est tout fraîchement sorti, seulement en octobre, chez CNRS Éditions. Donc j'en profite pour remercier la revue Hermès, dont à laquelle la collection est rattachée, qui est une collection donc, qui a pour objet de réfléchir aux enjeux de communication et à la communication comme objet politique.
Alors, j'en profite pour remercier également toutes les personnes qui ont participé au programme de recherche consacré à la notion d'urgence à l'université de Brest, où j'enseigne. Et donc, c'est un laboratoire, le laboratoire dont je suis membre, Héritage et création dans le texte et l'image, qui a porté ce programme de recherche depuis 3 ans, qui a été créé par ma collègue Camille Manfredi. Alors, le point de départ de ce programme de recherche, dont en fait le livre Urgence, qui a récemment paru, est la publication des actes, en partie en tout cas. Le point de départ de ce programme, c'est eh bien, le constat que la rhétorique de l'urgence, les discours de l'urgence, saturent le débat public.
Oui.
Que ça produit le sentiment d'une urgence généralisée. Et en même temps, l'idée qu'il y aurait comme une concurrence entre ces différentes urgences et qu'on a du mal à s'y repérer. Donc l'objectif, au fond assez simple, mais très difficile à accomplir de ce programme, était de multiplier les perspectives sur la question, sur la notion d'urgence, pour essayer de sortir de cette confusion et de l'état affectif dans lequel cette confusion nous plonge. Alors, après ces différents travaux, on peut distinguer, il nous a semblé qu'on pouvait distinguer deux grands types d'usages de cette notion d'urgence. Un usage qu'on pourrait dire institutionnel, d'abord. L'usage qui en est fait par le pouvoir, qui se manifeste par la multiplication du dispositif d'état d'urgence, notamment. En 2015, après les attentats du Bataclan, mais en amont, en 2005, pendant l'épisode de ce qu'on avait appelé dans les médias la crise des banlieues, pour monter même à la Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Évidemment, l'état d'urgence qui a été créé spécialement pour lutter contre la crise Covid. Ces usages-là sont terriblement efficaces. Ils produisent des effets auxquels il est au fond impossible de résister. Et puis en miroir de ces usages institutionnels, on a des usages critiques qui émergent plutôt du champ militant. Ces invocations de l'urgence, urgence climatique, urgence des services publics, urgence du système de soins, etc., se caractérisent à l'inverse comme ne produisant en fait pas les effets qu'ils cherchent à produire. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui caractérise ces deux usages de la notion d'urgence, c'est malgré tout le fait que cette invocation de l'urgence produit comme un effet magique, un peu ensorcelant, qui fait qu'on a l'impression de deux formes, de deux cas d'usage de la notion d'urgence qui sont à la fois antithétiques, presque contradictoires, et qui en même temps fonctionnent l'un et l'autre sur le mode d'une espèce de boucle, dont on ne voit pas à comprendre comment on pourrait en sortir.
Oui, tout à fait juste.
Et cet effet magique, il vient du fait qu'on a quand même besoin de démontrer, d'établir qu'il y a urgence pour justement agir dans l'urgence. Et en fait, plus le temps presse et plus on en perd à en discuter, plus le temps ne fait que presser. Et on se sent de plus en plus justifié, en fait, à user de cet outil rhétorique et parfois donc des outils aussi administratifs, légaux, qui l'accompagne. Donc ce qui nous a semblé, c'est que pour ne pas céder à cet effet magique, pour réussir à analyser un peu les ressorts de l'urgence et le type de réponse qu'on saura lui opposer, il y a un contraste qui doit nous interpeller. L'urgence, elle se donne comme immédiate, c'est le fait irréfutable, la catastrophe qui s'est abattue, un état de fait qui serait impossible de nier, sauf à plaider une coupable naïveté ou au contraire à se faire finalement le complice d'une situation catastrophique. En fait, cet effet cette espèce de réalisme de l'urgence ou la notion d'immédiateté qui semble un peu accompagner chaque catastrophe qui impose une crise, il faut réussir à y résister un peu et voir combien, au contraire, l'urgence multiplie les règles, les règlements et les dispositifs de pouvoir. Donc ce qui est immédiat n'est pas tant que ça, et au contraire, il y a plein de médiations par lesquelles l'urgence, ensuite, a des effets concrets sur nos sociétés, sur nos vies. Un exemple, et ensuite on présentera les invités aussi qui nous aideront un peu à creuser cette notion, puisqu'il n'y aura pas que Nicolas et moi aujourd'hui pour vous parler de l'urgence. Un exemple qui peut nous aider à voir un peu justement cet effet de cadrage que l'urgence impose, comme si finalement il s'agissait juste d'une catastrophe qui, sans médiation, s'abattait sur nous. Il faut penser par exemple à la crise du Covid et à la façon dont le tri des malades, vraiment le triage en fait des cas et le fait de hiérarchiser des vies, s'est donné comme la seule option possible face à une catastrophe qu'on ne pouvait pas prévoir et qui s'abat sur nous. Alors qu'en fait, les coupes budgétaires, la raréfaction des moyens, de longue date, a préparé quand même tout un tas de conséquences par rapport auxquelles ensuite il a fallu agir.
Alors, Marion l'a dit, on a avec nous la chance aujourd'hui d'avoir des invités. qui ont contribué à cet ouvrage et aux réflexions qui l'ont précédé. Alors, je présente tout de suite le docteur Jamal Abdelkader, qui est psychiatre en région parisienne, et qu'on connaît notamment parce qu'il a été le personnage principal d'un excellent documentaire qui s'appelle « État limite », qui a été réalisé par Nicolas Peduzzi, et que vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, voir sur la plateforme Arte. Et puis on aura, normalement, si elle arrive à sortir des bouchons parisiens, Eugénie Mériot, qui interviendra un peu plus tard dans l'émission, et qui est une collègue enseignante en droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, d'autres invités nous ont fait la gentillesse et le plaisir d'accepter de s'enregistrer, ou bien eux-mêmes, ou bien en discussion avec nous à distance. Et on passera au fil de l'émission des enregistrements de ces personnes qui ont aussi accepté de nous parler de leur travail autour de la notion d'urgence. Un pompier de métier qui a préféré rester anonyme, dont on va écouter le témoignage tout de suite. Et puis deux collègues historiens de l'humanitaire, Bertrand Tête, qui travaille à l'université de Manchester, et Joël Glassmann, qui travaille à l'université de Bayreuth en Allemagne, avec qui Marion et moi nous avons discuté, dialogué, et dont nous vous passerons un peu plus tard l'enregistrement.
Merci pour ces enregistrements.
Donc, de manière intuitive, une urgence paraît requérir une action immédiate, je l'ai dit. Et pourtant, un cas emblématique d'inaction face à l'urgence, c'est celui de l'urgence climatique. On est donc parti de cette situation comme d'un cas limite qui doit nous interroger. Et en même temps, notre idée est d'élargir pour sortir un peu de cette impasse, celle d'une urgence qui presse et d'une inaction collective. Une image qui revient de façon structurante pour aborder l'urgence climatique, c'est celui de la maison en flammes. Or, si ma maison brûle, j'appelle les pompiers. En dehors de l'urgence climatique, il y a des situations d'urgence que l'on traite en les déléguant à des corps professionnels comme les pompiers, la sécurité ou le soin. Or, dans ces domaines-là, l'urgence paraît encore redoublée par la pression budgétaire, par le management néolibéral dans le cas de l'hôpital public. Tous ces paramètres rendent les conditions de travail encore plus difficiles, sans pour autant avoir diminué le nombre de situations à gérer, ni leur gravité. Et je voudrais remercier Fanny Ramouni pour le montage de l'extrait que vous allez écouter à l'instant.
Merci à la technique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Quand je suis rentré pompier, l'essentiel du secours à personne était fait par les pompiers. Et on va dire qu'il y a eu petit à petit une privatisation du secours à personne qui s'est fait tout doucement. Ce qui fait que maintenant, une bonne part du secours à personne, notamment tout ce qui est domicile, est assuré par les ambulanciers privés, des grosses boîtes privées comme Harmonie, ainsi de suite. Il y a eu aussi une privatisation des hôpitaux, qui fait que, dorénavant, les cliniques privées ont récupéré toute une partie des urgences, entre guillemets, mais que la partie qui les intéresse, la partie rentable. Ce qui fait que toute la partie plus problématique, toute la partie non rentable, est donnée aux hôpitaux, ce qui est l'une des causes notamment de l'engorgement des urgences. Il y a aussi eu un énorme désengagement des médecins. Quand j'ai commencé, il y avait ce qu'on appelait les SMUGA, c'était des médecins de garde itinérants, qui déjà, entre guillemets, traitaient une grande partie de l'urgence déjà à domicile et faisaient que toute cette urgence ne retombait pas sur les pompiers et sur les hôpitaux. L'un des autres facteurs, c'est les régulateurs de l'urgence. En gros, le régulateur de l'urgence, c'est le SAMU, qui décide sur le devenir d'un patient. Étant donné qu'il y a eu une explosion des demandes d'urgence et qu'il y a eu une énorme judiciarisation, les SAMU, en fait, un peu partout en France, plus particulièrement dans mon département, sont devenus relativement frileux et évitent surtout de prendre des décisions. Ce qui fait que dès que une urgence arrive, c'est pas systématique, mais en gros, oriente forcément le patient vers des soins hospitaliers. Les hôpitaux étant déjà complètement engorgés, cela ne vient que rajouter au problème. Toute cette petite introduction pour te dire que quand je pense, moi, à une urgence, déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est une urgence réelle ou une urgence supposée ? Le secours à personne, par exemple, représente à peu près 75% des interventions des pompiers. Eh bien, sur les 75% d'intervention pour secours à personne, s'il y en a un tiers qui est une vraie urgence, alors c'est bien le grand maximum. En tous les cas, c'est le ressenti que j'ai moi. Pour s'y retrouver, quand on est en situation de stress, que ça brûle, qu'il y a des gens un peu partout qui courent dans tous les sens, ou qu'on est sur un gros accident de circulation. Bref, pour n'importe quelle intervention, en fait, on a des outils logiques. Il faut savoir qu'à la base, ils n'ont pas été créés par les pompiers, mais par l'armée. Car l'armée a bien compris qu'en situation de stress et de problème, eh bien, l'intervenant avait besoin d'outils logiques pour pouvoir savoir où il en était rendu dans une situation. Donc celui que j'utilise quasiment tout le temps, c'est le SOIEC. Donc S pour situation. Donc quand j'arrive, par exemple, sur un feu, est-ce qu'on est déjà de jour ou de nuit? Puisque si on est de nuit, qu'on est dans des locaux d'habitation, je me dis, ah, bah, potentiellement, les gens, ils sont chez eux à dormir. Donc il y aura peut-être des sauvetages à faire. Est-ce que le feu est pleinement développé? Ou est-ce que c'est juste un petit peu de fumée? C'est vraiment quelque chose d'assez large. Ensuite, après, on passe au O pour objectif. Tout simplement, éteindre le feu. Reconnaître un peu les lieux, parce que finalement, on m'a dit qu'il n'y avait personne, mais peut-être qu'il y a quelqu'un, en fait. Ensuite, après, on a le I pour idée de manœuvre. Donc, en gros, comment je vais faire pour remplir mes objectifs? Bah, par exemple, pour éteindre le feu, je vais utiliser une lance à eau. Pour protéger la maison d'à côté, je vais mettre une autre lance. Ensuite, après, on a le E. Alors, le E, c'est tout ce qui a trait à l'exécution. Avec qui, avec quoi? Bon, ben voilà, je veux éteindre le feu, donc je vais utiliser une lance, et puis ça sera avec mon binôme numéro 1. Pour le binôme numéro 2, il y aura une autre lance, et sa mission, ça sera de protéger, par exemple, la maison d'à côté. Enfin, vient le C pour commandement. Alors, dedans, on regroupe un petit peu toutes les choses particulières, notamment moyens radio, moyens de communication avec les personnes que je vais engager. C'est aussi tout l'aspect sécuritaire, même si ça a déjà été pris en compte avant. Pendant l'intervention, on est vraiment focalisé sur ce que l'on fait. Donc c'est vraiment la chose qui domine sur l'intervention, le fait d'être plutôt concentré et de mettre de côté un peu l'aspect émotionnel. Après, c'est comme toute chose, moi je pense qu'il y a une limite à toute personne. Moi, je ne l'ai jamais atteinte pour l'instant, mais va savoir, peut-être qu'un jour, je l'atteindrai. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi dans le métier de l'urgence.
Superbe témoignage. Donc, nous sommes aujourd'hui dans Philosophie au présent sur Aligre FM avec Marion Polaert, Nicolas Lemaire pour le livre Urgence paru à CNRS Édition. Et nous avons déjà autour de la table Jamal Abdelkader, un de vos invités. Alors, Nicolas Lemaire, magnifique témoignage de ce pompier, assez édifiant finalement, hein. Moi, je retiens la privatisation du service de l'aide à la personne. Hein,
tout à fait.
Tout au début de ce qu'il dit.
Oui, tout à fait. Une privatisation donc, dont on voit évidemment les effets aussi sur le service public.
Tout à fait.
Du traitement des urgences, de secours à personne. Et donc, je pense que ça serait intéressant de peut-être demander à Jamal tout de suite comment lui qui travaille... au sein de l'hôpital public, ou qui a travaillé en tout cas assez longtemps au sein de l'hôpital public et au plus proche des effets en fait de ce délitement progressif du traitement hospitalier des urgences, eh bien comment vous, Jamal, qui travaillez en bout de chaîne, vous ressentez, ou est-ce que vous ressentez, et si oui, comment ce dont parle ce pompier? Et puis deuxième aspect peut-être, eh bien l'idée de protocole qui encadre l'intervention dans le secours à personne du point de vue des pompiers qui sont dans le rapport le plus immédiat qu'on puisse imaginer à l'urgence et qui se caractérise aussi par une logique, il le dit lui-même, sécuritaire, c'est-à-dire quelque chose d'un peu contre-intuitif qui rompt un peu avec l'image du pompier cow-boy, etc., qui en fait consiste à toujours rationaliser les risques en termes de sécurité de l'intervention elle-même pour les gens qui ne sont pas pris dans l'urgence et pour les acteurs du secours.
Bonjour à vous trois, merci de votre invitation. Du coup, pour vous répondre, je vais faire peut-être un passage par le film de Nicolas Pedoudi, « État limite », dans lequel on peut justement percevoir le travail des soignants à l'hôpital Beaujon, donc à la PHP à Paris, et en particulier le mien. Et en fait, je pense qu'on peut y voir une posture très fréquente dans le milieu soignant, qui est celle d'un surengagement pour pallier à des manques de moyens. Et donc, on y voit effectivement des soignants qui font le travail supplémentaire de plusieurs soignants pour pouvoir pallier ces manques, et ces manques qui sont effectivement directement liés à des organisations du travail qui se sont modifiées il y a maintenant près de 30, un peu plus d'une trentaine d'années. Mmh. Et donc vous en avez un peu parlé tout à l'heure d'un management néolibéral, je crois, en disant. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le New Public Management, et c'est aussi ce qu'un juriste, le professeur Supiot, nomme la gouvernance par les nombres. Mmh. C'est-à-dire qu'on en vient finalement progressivement à décorréler le travail réel en imposant une certaine organisation qui va se baser sur des indicateurs chiffrés. Et ces indicateurs, en fait, sont complètement décorrélés, pour ce qui est ma part, par exemple, de la question du soin. Mmh. Si on prend un cas pratique aux urgences, ce qui va intéresser l'efficacité du soignant aux urgences, c'est la durée de passage, le temps moyen de passage d'une personne aux urgences. C'est-à-dire qu'on va évaluer le résultat du travail soignant et son efficacité à l'aune de cet indicateur. Et plus cet indicateur va être bref, va être court, et en fait, plus on va considérer que le résultat est bon. Et en fait, ça, c'est complètement incohérent par rapport à la nécessité d'accueillir une personne en situation de souffrance, d'essayer de comprendre et de prendre surtout le temps de comprendre quelle est la problématique qui l'a amenée, pour pouvoir y apporter une réponse adéquate, et ne pas pérenniser en fait la situation, et ne pas être en artifice par rapport à ce qui nous arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces indicateurs, eux, ne tiennent pas du tout en compte ces questions d'histoire et de temporalité, d'anamnèse nécessaire à la compréhension des symptômes, et nous amènent progressivement à avoir un travail de plus en plus court, de plus en plus standardisé, de plus en plus bâclé, et qui finalement passe effectivement par des protocoles dans lesquels en fait l'artisanat soignant ou la culture soignante est complètement dévalorisée, et en fait on a effectivement une pratique du soin qui, j'allais dire, n'en est plus du tout une. Et ce qui se passe à la fin des fins, c'est les événements graves et médiatiques dont vous avez pu entendre parler, qui sont en finale une personne qui va mourir aux urgences faute d'avoir pu être soignée correctement, ou bien ça va être des personnes qui viennent de manière récurrente aux urgences parce qu'en fait on n'a pas répondu à la problématique et qu'on les a fait sortir sans avoir compris les raisons de la maladie. Et donc j'insiste sur ce point de management, c'est que je pense que si on veut sortir de la crise hospitalière et de ce que certains ont nommé la casse du système public, des services publics, de la sécurité sociale au sens large, il va falloir vraiment revenir sur cette question d'organisation du travail et redonner la possibilité à ceux qui soignent et qui ont une vraie culture, une vraie réflexion sur leur métier, leur donner la possibilité d'avoir une voix qui compte et de définir elles-mêmes quels sont leurs besoins, j'allais dire en complémentarité aussi avec les personnes qu'elles soignent, parce que ces personnes ont des attentes et ont des besoins spécifiques. Et que ce ne soit pas des personnes qui n'ont aucune réalité concrète de ce qui se passe sur le terrain qui décident de ces organisations. Parce qu'à la fin, effectivement, et ça vous l'avez dit, la logique, elle est la suivante, elle est d'aller vers une privatisation de plus en plus conséquente de nos services et de nos biens communs.
On se demande d'ailleurs quelle est la place finalement du soignant dans ce système chiffré, il y a une forme de schizophrénie, enfin, je veux dire, on doit soigner et en même temps, on répond à des injonctions qui, finalement, n'ont cure du soin.
je pense qu'on en commence à en percevoir quand même beaucoup les effets en termes de ce qu'on nomme l'épuisement professionnel,
oui, tout à fait.
Et qui, en fait, est la marque de ces organisations du New Public Management qui maltraitent en fait leurs propres agents et donc les soignants eux-mêmes, qui les obligent à adopter des pratiques protocolisées qui sont encore une fois décorrélées de ce qu'ils devraient faire, et donc en fait on est plongé dans des conflits déontologiques, des conflits éthiques. Et je pense que la question des traumatismes lié à ces pratiques pour les soignants, qui peut-être pour le moment font l'objet de ce qu'on pourrait nommer de manière contemporaine une amnésie traumatique, va devoir faire l'objet d'une prise en charge une fois qu'on sera sorti de cela et que les gens vont pouvoir exprimer véritablement leurs symptômes et leurs souffrances. Je pense qu'on va avoir, à faire face à un nombre conséquent de soignants qui vont être démoralisés, en situation de dépression, et donc il va falloir soigner les conséquences d'une organisation qui, encore une fois, casse les institutions, mais elle casse avant tout les personnes qui y travaillent.
Tout à fait, oui. Merci, Marion Pollaert.
Merci Jamal pour cet éclairage. Je pense qu'un premier élément de réponse critique à l'urgence, ça serait donc d'essayer de recréer du temps du soin, de dilater en fait ce temps que l'urgence a fait disparaître et de rompre avec la logique folle d'une urgence générale et normalisée. On va se poser la question, juste après une pause musicale, de savoir s'il n'y a pas un équivalent à penser aussi à un autre antidote, cette fois-ci face à la multiplication des états d'urgence. Et quelle meilleure façon que la chanson qui va suivre pour présenter Eugénie Mériot, qui va nous rejoindre justement pour nous éclairer sur cet aspect.
Merci Armand.
Bientôt la fin du monde, déjà l'état d'urgence. Bientôt la bête immonde, déjà l'odeur de l'essence. Bientôt la fin du monde, déjà l'état de violence. Séparés sous les bombes, on fête la fin de l'abondance. Bientôt la fin du monde, déjà les voitures crament. Quand l'air est lourd et sombre, il reste quoi? Les flammes. Bientôt la fin du monde, d'abord la fin du mois. Quand la route est trop longue, il reste quoi? L'effroi. Bientôt la fin du monde, déjà un grain de sable. Quand se grippe la map monde, il reste quoi? Une simple fable. Bientôt la fin du monde, encore quelques secondes. Quand le ciel s'est éteint, il reste quoi, putain?
Voilà, de retour sur Philosophie au présent, Allegre FM 93.1. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes en direct et on a une super équipe. Marion Pollaert et Nicolas Lemerer pour un livre absolument magnifique. Urgence, voilà, un film qui vient, un livre qui vient de sortir, CNRS Édition. Voilà, et puis on a plein d'invités autour de la table, mais voilà, on a déjà eu l'occasion d'écouter parler Jamal tout de suite. Et puis là, on a une nouvelle invitée qui est venue et qui est la chanteuse de ce qu'on vient d'écouter.
Vous venez d'entendre la voix de l'étrangère, mais qui s'appelle aussi À la ville, Eugénie Mériot.
Superbe, superbe chanson.
Merci beaucoup, ça parle de l'état d'urgence, justement.
C'est magnifique.
Bientôt la fin du monde.
Ouais.
Déjà l'état d'urgence.
Ouais.
Bientôt la bête immonde. Déjà l'odeur de l'essence. Donc, c'est pas très réjouissant.
Non.
Et donc, en effet, t'es aussi maître de conférence en droit. T'es constitutionnaliste, t'as fait du droit comparé, mais aussi du droit constitutionnel. On peut dire que t'es politiste également. Quel regard tu portes justement sur la multiplication des pouvoirs d'exception? Et donc, l'exception, on peut aussi la penser sous la forme de l'urgence. On parle souvent d'état d'urgence ou d'état d'exception. C'est quelque chose qui a été au centre de tes recherches. Quel lien tu ferais avec ça, sachant qu'on a déjà abordé aussi beaucoup la question notamment sécuritaire, qui finalement sous-tend beaucoup toutes les traductions de l'urgence, toutes les traductions sociales et politiques.
Merci beaucoup. Oui, j'ai publié récemment un livre qui s'appelle « Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence » qui montre comment l'état de droit se mondialise en vagues, et à ces vagues de mondialisation de l'état de droit correspondent également des vagues de mondialisation de l'état d'urgence. La dernière vague en date, c'est celle qui date de 2001. En réalité, donc après le 11 septembre 2001, vous avez une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1373 du 28 septembre 2001, qui demande à tous les états du monde d'adopter des législations antiterroriste qui vise dans une logique d'état d'urgence à suspendre un certain nombre de droits et libertés, notamment les droits pour les étrangers. Donc l'état d'urgence, c'est l'état dans lequel vivent tous les étrangers sur notre sol, mais on peut remonter à plus loin, hein. Avant la vague actuelle, celle qui vient de l'antiterrorisme des années 2000, il y avait aussi la vague des années 60, la vague de mondialisation de l'état d'urgence qui faisait suite aux décolonisations dans le monde entier, et c'est le contexte de naissance de la 5e République, qui est donc née dans cet état d'urgence algérien, colonial. Et cet état d'urgence, donc la loi de 1955, c'est celle que nous avons retrouvée ensuite en 2015 à la suite des attentats commis au Bataclan. Et de 2015 à 2017, nous avions eu un état d'urgence qui a duré 2 ans, donc c'est très long. C'est pendant cette période que Emmanuel Macron a été élu, hein. Je rappelle quand même que les élections sous état d'urgence sont des élections qui sont moins libres et équitables que des élections sous état de droit, même si bon, il faut déconstruire évidemment cette dichotomie binaire puisque l'un est en symbiose avec l'autre. Mais toujours est-il que cet état d'urgence, ensuite, il s'est pérennisé dans le droit commun. C'est la loi SILT du 30 octobre 2017. Parmi les mesures phares qui étaient réservées à l'état d'urgence et qui sont désormais dans le droit commun, il y a les perquisitions administratives qui s'appellent désormais visites domiciliaires. Il y a les assignations à résidence. Donc les assignations à résidence, ce sont des modes de détention à domicile qui sont extrêmement contraignantes, hein. On peut se poser la question de savoir est-ce que les personnes qui sont sous assignation à résidence sont en fait des détenus et peut-être parfois même des prisonniers politiques. Il y avait un article récemment dans le diplo de ce mois-ci sur y a-t-il des prisonniers politiques en France ? Donc c'est une vraie question. Et puis les périmètres de protection qui permettent au préfet, au ministre de l'Intérieur d'interdire des manifestations dans un périmètre donné. Et évidemment la question qui se pose, c'est est-ce que les juges qui sont censés être les garants de l'état de droit nous permettent de limiter un peu ces atteintes aux libertés par l'état d'urgence. Et ce qu'on voit, c'est que finalement les juridictions non plus ne sont pas plus strictes en période d'état d'urgence pour le contrôle de l'exécutif. Au contraire, ces juridictions sont les auxiliaires de l'exécutif dans la mise en place de ces législations restrictives. Un exemple emblématique, c'est par exemple en 2015, lorsqu'il y avait la manifestation pour la COP21, eh bien, au motif de l'état d'urgence, on a assigné à résidence les militants écologistes pour qu'ils ne puissent pas participer aux manifestations, et le Conseil d'État n'a rien trouvé à y redire. Donc cette logique de l'état d'urgence, c'est une logique qui vise à désigner des ennemis intérieurs, qui sont d'abord les étrangers, puis ensuite les musulmans, puis ensuite les manifestants, puis ensuite les terroristes, puis ensuite l'ensemble de la population. Donc là, on voit très très bien cette logique de l'état d'urgence qui inclut de plus en plus de personnes dans ces fichiers d'éléments indésirables, donc auxquels va être soustrait la protection des garanties des droits.
Puis ce qui doit nous interpeller dans ce que Génie vient d'expliquer, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on est peut-être dans une forme d'imitation, de mimétisme en fait par rapport à ce qui se présenterait comme des réponses efficaces face à des urgences auxquelles on se trouve confronté. Donc en fait, en un sens, quand on invoque quelque chose comme l'urgence climatique ou qu'on se saisit nous aussi, cette fois-ci pour des causes qu'on estime justes, des outils de l'urgence, de la rhétorique qui l'accompagne, en fait, est-ce qu'on ne reprend pas le mot de Macron qui dit « nous sommes en guerre » et là, nous sommes en guerre contre les flammes qui sont déjà en train de s'emparer de notre maison. Si on a voulu interroger aussi le champ humanitaire et essayer d'ajouter un peu au regard que Jamal nous a permis de porter sur les urgences hospitalières, celui de Génie sur la multiplication des états d'urgence, c'est que la référence à la guerre, ou en tout cas à cet horizon de destruction totale qui légitime en fait une réponse proportionnée à une crise qui justement est hors proportion, pour ainsi dire, l'humanitaire nous permet de voir ça justement en face, de voir même la matrice historique en fait de la façon dont l'horizon catastrophique nous permet de court-circuiter les circuits légaux habituels, les façons de traiter le malade qui nous paraîtrait digne dans l'absolu. Et donc si la question humanitaire nous intéresse, c'est pas seulement parce qu'elle se pose dans des situations absolument catastrophiques, mais c'est aussi que ce domaine nous permet d'interroger le fonctionnement même de l'urgence. Mmh. Quand il y a une guerre ou une famine, on peut se sentir confirmé dans l'idée que l'urgence nous tombe dessus, qu'il s'agit d'un fait qui s'impose. Or, ce que l'humanitaire met en évidence, c'est qu'au contraire, on se dote collectivement, en tant que société, d'outils pour définir l'urgence. Il faut bien pouvoir décréter l'urgence, et c'est même finalement la condition à entrer, basculer dans un état spécial, dans un mode de fonctionnement inhabituel. Or, l'urgence est en quelque sorte construite. Il faut qu'il y ait des seuils, des outils statistiques qui permettent de la décréter. Et il y a comme une technicisation de l'urgence, et on retrouve dans l'idée d'une action efficace en fait face à l'urgence l'idée qu'il s'agit d'une question technique aussi derrière ça. Donc Joël et Bertrand, que vous allez entendre dans un instant, ont contribué aussi dans le livre par des chapitres sur la question d'un modèle libéral de l'action humanitaire. Une question qui peut se poser, c'est de savoir quelles sont les différentes dimensions de la rationalisation, et de la mise en système de l'aide humanitaire mondiale. On peut penser notamment au début des années 90 à la mise en place du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, au sein de l'ONU. Donc je laisse la parole à Joël et Bertrand.
Merci.
L'aide humanitaire, c'est une assistance à des personnes pour la simple raison de leur appartenance à l'humanité, en raison de leurs besoins et sans distinction d'appartenance religieuse, politique, ethnique, etc. C'est une activité qui est ancienne et qui a fortement grandi depuis les années 70-80. Bon, la création d'une organisation humanitaire comme Médecins sans frontières, c'est 1971, et qui a développé tout un tas d'outils pour s'emparer de l'urgence, pour définir l'urgence, tout un tas de mots, en partie tirés du vocabulaire du droit humanitaire international, génocide, crimes de guerre, etc. Et puis d'autres catégories comme le terme de famine, par exemple. Donc d'un côté un vocabulaire et puis de l'autre côté des outils plus techniques, notamment des outils statistiques, des seuils statistiques pour définir l'urgence. Alors un des seuils statistiques qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle le taux brut de mortalité. Si on a plus de 1 décès pour 10 000 personnes et par jour, par exemple dans un camp de réfugiés, on a une crise humanitaire. Alors on a des seuils statistiques qui ne sont jamais parfaits, bien sûr, et qu'on peut toujours ajuster ou utiliser en batterie. Maintenant, les grands outils des organisations internationales humanitaires pour se saisir de l'urgence, c'est une batterie d'indicateurs statistiques avec les seuils des taux bruts de mortalité, les taux de malnutrition aiguë, l'accès aux soins, etc.
Première chose, c'est d'abord que l'urgence est toujours définie dans le discours. Ça n'est donc pas un produit objectif, mais le discours d'objectivité est central pour la justification du cas d'urgence ou d'un appel à fond, notamment de la communication d'une crise. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que depuis les années 70, mais surtout les années 80, il y a une double injonction de professionnalisation, d'appréciation précise et de plus en plus pointue de la notion de besoin. Quels sont les besoins auxquels devrait répondre l'aide humanitaire, avec l'hubris que ça représente, dans la mesure où l'aide humanitaire est toujours en fait relativement anecdotique par rapport à l'ensemble des besoins de la planète. Il faut reconnaître la taille très très modeste de l'aide humanitaire par rapport aux dépenses qui seraient nécessaires pour assurer un service universel de soins, par exemple, ou de réponse ou de nutrition, mais avec une sorte d'hubris sur le fait que professionnellement, on a réussi, ou les humanitaires réussissent, à avoir une perception assez fine des situations, et surtout de gérer un problème beaucoup plus aigu, qui est de savoir à quel moment les humanitaires peuvent se retirer. Donc la fin de mission, qui est toujours un problème, la fin de l'urgence, est beaucoup plus difficile à définir dans le temps et dans la pratique que déclarer la crise. Déclarer la crise, c'est relativement aisé, où nous avons quelques mesures objectives, comme l'a mentionné Joël. Déclarer la fin de crise devient très compliqué, dans la mesure où une crise est souvent beaucoup plus diverse et variable suivant la localisation, et donc les humanitaires vont développer des outils et surtout des mesures, des appréciations. Et une grande partie de ce système de la mesure repose sur le partage des données, sur des cadres théoriques communs, sur des cadres programmatiques communs, donc cette notion de programme humanitaire qui devient dominant, avec des logiques de discours, des logiques de management, qui sont assez inspirés des écoles de management des années 70 américaines, hein, pour être entièrement honnête, avec avec un logical programming qui vient, lui, de l'armée américaine des périodes précédentes. Donc il y a toute une sorte de montée en puissance de ce que les humanitaires commencent à appeler un système dans les années 80 et surtout dans les années 90. Et cette idée de système est faite sur des notions d'universalisme, on va dire un consensus technique. Et c'est là, à mon avis, que les choses sont en train de tourner.
Juste pour donner une idée de à quoi ça peut ressembler concrètement, si on prend les outils, comme les outils de OCHA, qui est le Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, aujourd'hui de l'Organisation des Nations Unies, ils ont un résumé des données en cas de crise qui s'appelle le Joint Intersectional Analysis Framework, qui ressemble à un immense tableau Excel où toutes les organisations, UNICEF, le HCR, donc l'Organisation pour l'aide aux enfants, l'Organisation pour l'aide aux réfugiés, etc., vont entrer leurs données, le nombre de réfugiés, et un immense tableau Excel dans lequel on va essayer d'avoir une vision panoptique des besoins des réfugiés, alors qui est tout à fait critiquable, qui n'est jamais suffisante, qui est une idée, une forme d'hybris, comme l'a dit Bertrand, mais une tentative d'objectiver la situation d'urgence dans certains pays, et qui est peut-être en train de devenir caduque au moment où, à Gaza, au Soudan ou dans d'autres crises, alors qu'on a, pour les seuils statistiques des situations d'urgence qui sont très très flagrantes, un manque de réaction ou alors, pire, un soutien des forces armées qui sont responsables de cette urgence-là.
Philosophie au présent, et voilà, vous êtes aujourd'hui autour, on travaille aujourd'hui autour de l'ouvrage Urgence, qui est sous la co-direction de Nicolas Lemaire et Marion Polaert, qui sont là avec nous. Aujourd'hui, on écoutait un témoignage édifiant où finalement l'humain disparaît, hein, sous l'idée d'un système, d'un consensus technique. Hein, c'est vraiment ce qui est marquant dans ces témoignages que vous avez choisis, Nicolas Lemaire, avec Marion.
Cette notion de consensus technique dont Bertrand Tête qu'on entendait parler de cet ensemble d'outils statistiques que Joël Glassman vient à l'instant d'évoquer, donc qui sont réunis dans cet organisme qui s'appelle OCHA, donc le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ce consensus technique, ce serait peut-être exagéré de dire qu'il fait disparaître l'humain. Il était en tout cas ce sur quoi s'appuyait ces dernières décennies, depuis notamment les années 90, la façon dont les humanitaires cherchaient à faire valoir le principe qui fonde l'idée même d'humanitaire, à savoir le principe d'humanité, le principe d'une égale valeur et dignité de la vie humaine. On assiste en fait, comme Bertrand Tête l'explique, à une augmentation continue des fonds alloués à l'humanitaire depuis les années 90 de la part des États. Les États constituent de loin la plus grande source de financement de l'aide humanitaire, bien plus importante que le financement privé. Mais en même temps, la rhétorique qui a été utilisée pour solliciter des fonds par les ONG est fondée plutôt sur l'insuffisance du financement. Et donc cette rhétorique de l'urgence est justement liée au fait que l'approche technique permet une connaissance de plus en plus fine, de plus en plus précise des besoins, et donc une meilleure identification des crises. Et puisque la masse des besoins est mesurée relativement à la réponse qu'on peut y apporter, et c'est en fait plutôt l'impuissance de cette réponse humanitaire qui structure les négociations autour du financement de l'aide, plutôt qu'un discours de la réussite et de la performance. Alors cette sorte de fuite en avant tragique, on pourrait le dire, dans le discours humanitaire, dans la façon dont il se structure, et l'un des aspects de cette hubris que Bertrand Tête a évoqué, ce qu'il appelle hubris, c'est cette confiance des acteurs de l'humanitaire, alors affichée ou ressentie, dans l'importance et le caractère décisif de leur travail. Cette confiance, elle est liée à la technicisation, justement, et à la professionnalisation de l'aide, qui caractérise ce paradigme libéral de l'aide humanitaire qui s'institue dans les années 80, puis surtout 90. Mais elle peut sembler, cette confiance-là, excessive au regard de l'incapacité des acteurs de l'humanitaire à jouer un rôle réellement décisif, notamment par rapport aux causes politiques des conflits qui génèrent les crises. L'humanitaire dépend principalement des fonds étatiques, on l'a dit, mais évidemment, il n'est jamais en mesure de peser réellement face aux États avec lesquels il doit négocier. Alors, quant au principe d'humanité, Nathalie, que vous avez évoqué, ce qui apparaît, c'est que même insuffisante et fragile, ces bases, ces structures du système humanitaire avaient pourtant le mérite d'exister faute de mieux jusque-là. Ouais. Et que ce qui se passe depuis 2 ans, en fait, c'est un effondrement des bases mêmes de l'humanitaire comme système, notamment, évidemment, depuis le démantèlement par Trump de USAID, qui était le principal organisme donateur de l'humanitaire au niveau mondial, alors qui a été précédé, en fait, par Boris Johnson, qui a démantelé, il y a 4 ans, DFID au Royaume-Uni. Nos collègues Joël Glassman et Bertrand Tête vont nous l'expliquer, en fait, ça traduit le passage à une logique qu'on appelle logique de sécuritisation des rapports internationaux, c'est-à-dire qui vise à, évidemment, accroître le budget, les budgets militaires, au détriment, évidemment, des autres budgets, et donc à reflécher le reste, et notamment l'humanitaire, selon une logique qui n'est évidemment pas une logique d'humanité, où on fait même plus semblant, disons, de s'appuyer sur ce principe, mais une logique qui est exclusivement liée à des questions et à des besoins relatifs à la sécurité nationale. Donc la question qu'on a posée à Joël Glassman et à Bertrand Tête, c'est comment cette crise du système humanitaire libéral se manifeste concrètement pour les acteurs des ONG humanitaires.
Et on va écouter alors cet extrait.
Les origines même de l'humanitaire, c'est ce principe que l'humanitaire n'existe que par rapport à des principes d'humanité. C'est-à-dire qu'on reconnaît la valeur universelle de la vie humaine. Et si on enlève ce principe d'humanité, si ce principe d'humanité devient contestable, si certaines vies sont explicitement, on peut arguer qu'elles ont toujours été implicitement inégales dans le traitement par les humanitaires et par les États, mais si explicitement on commence à nier le principe d'humanité, alors là, les fondations même de l'urgence humanitaire disparaissent, ou alors du moins sont profondément minées.
C'est quelque chose qui est très important, je crois que ce que dit Bertrand, pour comprendre ce qui nous arrive en ce moment, c'est que jusqu'à présent, les organisations humanitaires, elles avaient l'oreille des gouvernements libéraux, même si ça ne veut pas dire qu'elles étaient tout à fait écoutée et surtout qu'on faisait ce qu'elle disait. Mais enfin, on avait avec ce que disaient les organisations humanitaires une certaine politesse. Au moins, on les recevait, etc. Et on entendait le diagnostic, même si c'était pas forcément pour faire ce qu'elle recommandait vis-à-vis de la politique des réfugiés, notamment de l'accueil, de l'aide au Sahel et dans d'autres régions. Mais enfin, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une forme de sécurisation de l'aide humanitaire, donc une reformulation de l'aide humanitaire en raison de buts strictement militaires, géopolitiques, stratégiques, avec une baisse massive des budgets aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suède. Donc, baisse massive des fonds publics pour les organisations humanitaires qui étaient déjà très, 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 très faibles. On parlait de budgets quand même très, très faibles, mais enfin qui étaient en expansion, maintenant qui sont en grave déclin. Et le reciblage des flux vers des zones stratégiques, donc un retrait des zones de l'Afrique et de l'Asie, de l'Amérique latine, qui sont jugées moins sensibles militairement, politiquement, et puis redirection vers l'Ukraine notamment, ou vers d'autres zones de guerre qui sont jugées prioritaires, mais avec une aide humanitaire qui est maintenant très très fortement instrumentalisée, ou en tout cas que les gouvernements essayent d'instrumentaliser.
DFID, par exemple, a été aboli par Boris Johnson il y a maintenant 4 ans. C'est donc le précurseur. Et DFID avait une sorte de, était un ministère dévoué au développement et à l'international, dont l'expertise était reconnue mondialement. Une expertise des savoirs techniques, des savoirs statistiques et aussi des savoirs pratiques. L'abolition de DFID a été un démantèlement de ces savoirs. On retrouve le même phénomène en Suède avec des coupes très nettes de l'organisme suédois, SIDA. Et évidemment, Donald Trump, parmi les premiers actes de son gouvernement, a été d'abolir USAID, qui est de loin le plus gros organisme donateur et structurant de l'aide humanitaire jusqu'à présent. Et donc ce démantèlement, on peut le prendre sur plusieurs angles. C'est une mise au pas de l'internationalisme dans l'État, c'est-à-dire on essaie de ramener à des priorités nationales des dépenses qui partaient vers l'international. C'est une négation du système international, la notion même de système international disparaît, où on revient à des choses beaucoup plus transactionnelles, bilatérales, d'État à État, ou même d'État à organisme international traité comme un État. C'est la relation entre les États-Unis et OCHA. Et on revient surtout, on essaye d'abolir des formes de connaissances. Donc tout ce paradigme de la connaissance qui était la base de l'appréciation de l'urgence ou de la construction de l'urgence est en quelque sorte sabré. Et l'objectif là est de contrôler les termes même de l'urgence et d'en faire des termes entièrement politiques. Et ça va très loin dans la mesure où c'est non seulement une abrogation des outils, on ne va plus acquérir certaines données, mais on essaie aussi de supprimer les données antérieures.
Pour l'instant, la réaction des organisations de l'ONU aux coupes budgétaires initiées par la Grande-Bretagne et les États-Unis, ça a été le langage du « great reset », c'est-à-dire on va redémarrer le système humanitaire avec un ciblage des urgences les plus urgentes, une prioritisation des besoins, une plus grande efficacité, une plus grande modernisation, etc. Bon, c'est un nouveau discours qui a été déclenché l'année dernière, mais qui en réalité, à chaque grande crise du système humanitaire, il y a eu des discours comme ça de redémarrage, de nouvelle efficacité. Donc ça, c'est un langage dont d'ailleurs le gouvernement américain est en train de se réemparer en disant on a fait des coupes budgétaires, mais en réalité, ça peut être justifié a posteriori par les transformations que ça a initiées. Ce n'est pas du tout une réaction satisfaisante du point de vue de tout un nombre d'organisations. Il y a lieu de redéfinir la notion d'urgence d'une manière humanitaire, mais il y a aussi lieu de défendre certains des acquis que cette ancienne notion d'urgence et surtout ce principe d'humanité, même s'il n'a jamais été vraiment respecté, jamais vraiment universel, mais enfin, il constitue quand même un outil, de même que le droit international humanitaire, qui reste à notre disposition pour défendre certaines valeurs.
c'est quelque chose qu'on a vécu dans les années 30 et qu'on retrouve dans les discussions de l'humanitaire dans les années 30. Il y a des discussions dans les années 30 de cette négation de l'humanité qui est au cœur du mouvement d'extrême droite de l'époque, le fascisme, le nazisme, auquel se réfèrent certains acteurs aujourd'hui de l'illibéralisme. Mais le paradoxe maintenant, on est dans une situation où objectivement, les humanitaires ne peuvent plus prétendre à un consensus et doivent, les acteurs humanitaires non étatiques, malheureusement maintenant trop dépendants des États pour le faire réellement, enfin qui sont vraiment, ils sont vraiment pris dans une sorte d'étau, se retrouvent dans une situation où leurs principes fondamentaux deviennent des débats politiques. Donc la repolitisation, la remise en activisme des principes humanitaires, qui étaient devenus une sorte de background neutre sur lequel on appliquait des solutions technocratiques ou techniques face à l'urgence, est en fait redevenu un champ de bataille politique et potentiellement vraiment délétère. Et on en voit la preuve actuellement, une des évidences, quand le régime de Netanyahou essaye d'évacuer ou d'interdire les acteurs de l'humanitaire qui sont en fait les seuls acteurs actuels de présence humanitaire à Gaza et dans les territoires palestiniens et dont l'absence serait une catastrophe. Donc on est dans une situation où ils ne peuvent plus parler, mais en même temps ils ne peuvent pas ne pas parler. Et c'est une vraie crise existentielle hein, pour bien des acteurs humanitaires, dans la mesure où il est bien possible que leur insignifiance dans un nouveau cadre géopolitique soit maintenant non seulement avérée, mais en plus revendiquée par les États.
Magnifique dialogue entre Joël Glassman et Bertrand Tette qui nous a été donné à écouter aujourd'hui par les deux co-auteurs Nicolas Lemaire et Marion Pollaert pour l'ouvrage Urgence. Et nous avons autour de la table deux écrivains aussi de cet ouvrage collectif, Jamal Abdelkader et Eugénie Mériot qui sont autour de la table avec nous. Alors Marion Pollaert pour le mot de la fin, malheureusement, de cette très belle émission.
Hein. Merci, je voudrais redonner la parole, le mot de la fin à Eugénie Mériot et Jamal Abdelkader. J'ai l'impression qu'un point commun qui s'est dessiné, c'est que l'urgence a un effet dépolitisant au profit d'une gestion technique en fait de l'urgence. Alors cette repolitisation dont Bertrand Tette a parlé pour l'humanitaire, est-ce qu'on peut la penser pour le soin et pour les questions de gouvernement, d'usage du droit aussi que nos sociétés manifestent?
Oui, la rhétorique de l'urgence, c'est celle de la nécessité, de l'état de nécessité. C'est là où la discussion parlementaire, la discussion est suspendue. Donc en effet, repolitiser, ça passe par se défaire du fétiche du droit, qui est justement, le droit, c'est un moyen de dépolitiser les choses, d'enlever la conflictualité et de faire apparaître comme nécessaire ce qui n'est qu'un cas pratique du possible. Donc ça passe par donc remettre en cause le fétiche du droit et repolitiser par la discussion.
Et je dirais en complément que donc, l'urgence qui sidère les soignants et qui les met dans une disposition à ne pas pouvoir justement prendre le temps de se rencontrer pour parler de l'organisation du travail, elle doit être maintenant reprise. Et je pense que ce qui s'est passé au moment des mouvements sociaux en 2018-2019 à l'hôpital doit être repris, c'est-à-dire reconstituer des assemblées de parole à l'hôpital pour que les gens qui y travaillent puissent se réunir et convenir d'une marche à suivre pour détricoter ce new public management notamment.
Merci beaucoup.
Alors merci à Marion Pollaert et à Nicolas Lemaire d'être venus nous présenter Urgence et de Jamal Abdelkader et Eugénie Mériot d'être venus aussi co-auteurs de cet ouvrage. Merci et bonne journée sur à l'écoute d'Aligre FM, la meilleure des radios.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.